Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Nature Communication et la découverte d'un nouveau fossile des hommes de Denisova au Laos.
Et des fossiles de Denisoviens, on en a très peu, moins d'une dizaine. Donc en soi, c'est une découverte importante. C'est une espèce que l'on a découvert récemment, en 2010, grâce à la génétique. C'est grâce aux analyses d'ADN, d'un petit bout de phalange et de quelques dents, dans la grotte de Denisova, en Sibérie, que l'on a identifié cette nouvelle espèce humaine. Puis on a découvert, toujours dans le nord de l'Asie, une mandibule au Tibet. En 2018, des chercheurs français ont fouillé une grotte dans le sud du Laos. Dans les sédiments, ils ont découvert une dent. Une dent qui n'appartenait pas à Homo erectus, qu'on s'attendait à trouver dans la région, ni à Homo sapiens, et qui se rapprochait des néandertaliens, mais il y avait des différences assez marquées. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une molaire, vieille de 130 à 160 000 ans, d'une petite fille denisovienne. Cette dent vient confirmer que cette espèce occupait un vaste territoire dans toute l'Asie, jusque dans les forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est. Clément Zanoli est paléanthropologue, chercheur CNRS à l'Université de Bordeaux, et le co-signataire de cette étude.
Et puis nous avons aussi fait des analyses protéomiques pour extraire des protéines de cette dent humaine et ça nous a confirmé que c'était bien une dent qui appartient au genre humain. Et puis on a eu l'information comme quoi c'était une dent qui appartenait à un individu de sexe féminin. Le problème, c'était qu'on n'avait pas de référence particulière pour les Denisoviens. Et eh bien, coup de chance, quelques mois après cette découverte au Laos, eh bien, est sorti un article dans Nature qui présentait une mandibule, un fragment de mandibule avec deux molaires, très bien préservé du Tibet. Le spécimen s'appelle Chae. C'est ce spécimen qui nous a permis de comprendre que c'était un Denisovien, notre dent était un Denisovien, puisque le spécimen a été attribué à un Denisovien sur la base des protéines et était comparable avec la dent qu'on a trouvée au Laos. La paléogénétique nous a montré que les populations d'Asie du Sud-Est ont un certain pourcentage de gènes denisoviens en elles, et plus fort chez ces populations-là en Asie du Sud-Est que dans le reste du monde. Donc les généticiens ont suspecté que les ancêtres de ces populations ont pu s'hybrider avec les denisoviens quelque part dans l'Asie du Sud-Est, alors que ce soit sur le continent ou dans les îles. Et finalement, cette dent vient donner un peu de soutien à cette hypothèse en montrant que les Denisoviens étaient bien présents en Asie du Sud-Est il y a pas loin de 130 000 ans. Il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. On a leur génome, mais finalement, sur leurs habitudes, leur comportement, on connaît très peu de choses. Donc on se doute qu'ils étaient assez similaires aux Néandertaliens, très probablement. Mais bon, comme ils vivaient en Asie, ils devaient aussi avoir leurs propres particularités, des adaptations peut-être aussi un peu différente, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils vivaient à haute altitude dans les montagnes et aussi à haute latitude dans le froid. Et puis maintenant, avec cette dent découverte au Laos, on sait qu'ils étaient aussi capables de vivre dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Donc ça implique des grandes capacités d'adaptation à des milieux et à des climats très variés. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir et nous espérons retourner au Laos en fin d'année ou début d'année prochaine avec mes collègues pour essayer d'en trouver plus.
Voilà, et pour tout savoir sur cette première dent de Denisovien, vous pouvez retrouver comme chaque jour l'étude de Nature Communication sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. En France, un nombre record de réacteurs nucléaires sont à l'arrêt.
Oui, depuis fin avril, 29 réacteurs sur 56 sont en pause. C'est plus de la moitié du parc nucléaire français et la chute du niveau de production en énergie est également historique. Alors il s'agit pour la plupart d'arrêts prévus pour des travaux de maintenance et de remise à niveau, mais à cela s'ajoutent des mises à l'arrêt par mesure de précaution suite à un problème de corrosion sous contrainte, c'est-à-dire de petites fissures au niveau de soudure des coudes des tuyauteries d'injection de sécurité pour refroidir le réacteur en cas d'accident. Ce phénomène de corrosion touche 12 centrales. L'autorité de sûreté nucléaire poursuit ses expertises.
Selon une étude publiée dans la revue Icarus, nous avons peut-être découvert un astéroïde produit par une supernova.
La pierre d'Hypatie intrigue les chercheurs depuis sa découverte dans le désert égyptien en 1996. Cette météorite de 30 grammes ne ressemble à aucune autre. Elle est anormalement riche en micro-diamants. Une équipe sud-africaine a fait des analyses par spectroscopie et a découvert qu'elle est composée de poussière interstellaire. Sa composition chimique porte la signature des processus de nucléosynthèse qui l'a produit. Cette météorite se serait formée à la suite d'une supernova, de type 1A, une explosion stellaire rare. Si cette découverte est confirmée, la pierre d'Hypatie serait la première preuve tangible sur Terre de ces supernovae.
Et enfin, une étude publiée dans la revue ACS Photonics décrit un nouveau type de cellules photovoltaïques qui fonctionnent même de nuit.
Et les cellules photovoltaïques traditionnelles absorbent les photons du soleil pour les convertir en électricité. Ici, c'est l'inverse. Il s'agit de renvoyer la chaleur vers le ciel pour générer de l'énergie. Cette équipe australienne s'est appuyée sur la technologie des diodes thermoradiatives qu'on utilise dans les lunettes de vision nocturne. Les chercheurs ont utilisé ce processus thermoradiatif pour créer des capteurs photovoltaïques qui, une fois chauffés à 20 degrés, ont généré 2,26 milliwatts d'électricité par mètre carré. Alors c'est très peu, mais c'est une preuve de concept. Et selon les auteurs, à terme, ce procédé pourrait produire environ un dixième de la puissance d'une cellule solaire.
Et merci beaucoup Natacha. À demain pour le prochain Journal des Sciences.